Aujourd'hui, l'Église nous propose de méditer sur le thème du discernement, l'ouverture de nos yeux et des yeux intérieurs, pas seulement extérieurs. C'est aussi la fête de Saint-Joseph, normalement, mais le dimanche de Carême a pris le pas sur la fête liturgique de Saint-Joseph. Nous le célébrerons donc demain. Jésus est il passe, comme d'habitude, et le long du chemin, eh bien, il y a des hommes ou des femmes en état de besoin. Et là, un aveugle de naissance. Et ça va servir à Jean pour donner une grande leçon, une leçon magistrale sur la manière pour nous de devenir des disciples, sur la manière de témoigner. Avec la première lecture, c'est l'appel de David. Et eh bien, on peut faire un parallèle avec cet aveugle de naissance qui est appelé également par Jésus, d'une façon moins explicite peut-être, mais tout autant. Les disciples vivent encore de la spiritualité de l'Ancien Testament. Si quelqu'un est malade, c'est parce qu'il subit le châtiment de Dieu. Et donc, il est pécheur, parce que Dieu ne peut pas punir des gens qui n'ont pas péché. Et Jésus, à la suite de Job, eh bien leur dit « Vous vous trompez, ce n'est ni lui ni ses parents qui ont péché. Mais c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée en lui. » Alors on comprend, parce que c'est un grand miracle qui va s'accomplir là et qui va susciter une grande publicité au Seigneur. Mais en même temps, ça nous parle de quelque chose qui est très spirituel, qui est très religieux, à savoir cette blessure de nos yeux depuis le péché originel. Qu'est-ce qui s'est affaibli dans notre intelligence, dans notre discernement depuis ce temps-là? Nous sommes nés aveugles, spirituellement parlant, parce que nos yeux, notre intelligence, est capable de mesurer la matière, ce qui se voit, ce qui est visible. Mais notre intelligence ne peut pas voir, comprendre et ce qui est invisible, ce qui est d'ordre spirituel, surnaturel. Ça peut être des créatures spirituelles comme les anges ou Dieu lui-même, mais aussi la pédagogie divine, les œuvres de Dieu dans le monde. Tout cela, il faut avoir les yeux ouverts pour le voir, sinon le monde est clos, le monde vit sur lui-même, il est fermé à la grâce. C'est cette guérison-là qui a lieu. Alors on voit que le récit de la guérison est très rapide. Jésus crache, fait de la boue avec la poussière, l'applique aux yeux et lui dit « va te laver à la piscine de Siloé », c'est-à-dire à la confession, « va te confesser ». Et Siloé, l'envoyé, c'est Jean-Baptiste. Donc, il voit, ça y est, il est guéri. Donc ça pourrait être très rapide, hein. Mais saint Jean veut nous montrer, veut nous donner une leçon magistrale. Et de même que lorsqu'il avait guéri le paralysé au bord de la piscine, un paralysé depuis 38 ans, encore une maladie de très longue durée, moins que celle-ci, mais quand même, Jésus fait le don de la guérison et puis à chaque fois il se retire. C'est la pédagogie divine, ça. Et il laisse... Eh bien, l'ex, ici, c'est l'ex-aveugle. Avant, c'était le paralysé, pareil. Il le laisse tout seul, en face de ses détracteurs. Parce que ça se passe le jour du sabbat, donc ça passe pas inaperçu. Et donc, les pharisiens rappliquent immédiatement, en troupe, autour du miraculé, et ils saisissent quasiment de lui... En tout cas, il le presse de toutes parts pour qu'il s'explique comme s'il avait commis un péché. Et c'est l'occasion pour lui de donner un témoignage. Et un témoignage en plusieurs parties. D'abord, c'est des gens, le voisinage, les gens qu'il connaissent. Donc là, il raconte simplement ce qui s'est passé. Les gens qui l'ont connu savaient bien qu'il était qu'un réduit à l'état de mendiant. Il avait des parents, hein, c'est pas n'importe qui. C'est pas un errant qui a perdu tout sens de son identité, un orphelin qui complètement brisé. Non, c'est un homme normal. Et cet homme normal qui a une famille, pourtant, est ravalé au bas de la société parce qu'il ne peut pas voir, donc il était mendiant. Et grâce à Jésus, eh bien, toute son intelligence va pouvoir bouillonner en quelque sorte pour répondre et pour témoigner de celui qui l'a guéri. Vous voyez, ce qui est impressionnant, c'est toute la mise en scène, tout le théâtre, entre guillemets, qui est déployé pour, de la part des détracteurs de Jésus, pour essayer d'étouffer le miracle. C'est un miracle fabuleux. Mais ils veulent l'étouffer à tout prix. Alors attention, on assiste à un véritable procès, il y a une recherche de la vérité, on cherche à établir les faits, on cherche donc des témoins pour les faits, on cherche à établir la vérité de ces faits, la filiation de l'homme, on convoque les parents. Ça semble magnifique, ça semble avoir tous les aspects d'une recherche de la vérité. Et en réalité, tout cela est organisé pour étouffer la vérité, pour l'étrangler. Parce que tout est faussé. D'avance, les gens savent que s'ils disent la vérité, ils seront exclus de la synagogue, donc de la vie sociale. Comment, dans ces conditions, rendre témoignage à la vérité ? Il faut le courage du miraculé et son enthousiasme. Il est le seul à pouvoir faire face à ces hommes de mensonges et de pouvoir. Un pouvoir qui exclut Dieu, Dieu étant vu comme une menace à leur appétit sans frein. Le miraculé, lui, il a une grande force. Il a vu, c'est le moins qu'on puisse dire, l'œuvre de Dieu dans sa vie. Il est né aveugle, il a grandi jusqu'à un âge, on ne sait pas quel âge il a, mais il est adulte, il est assez grand, disent les parents. Il est assez grand maintenant dans la foi pour rendre témoignage de l'œuvre accomplie en lui. C'est comme s'il disait, Dieu m'a ouvert l'intelligence pour comprendre l'Écriture. Dieu m'a donné l'intelligence pour comprendre l'identité du Messie. Et de fait, Jésus se manifestera à lui en conclusion de son témoignage. Mais il va témoigner d'étape en étape. D'abord, c'est l'homme qu'on appelle Jésus, dit-il aux voisins, à ceux qui l'interrogent, sans mensonge, sans pression, cela. Puis, et il dit aux pharisiens qu'un homme qui a guéri un aveugle de naissance, ça ne peut être qu'un prophète. Et là déjà, ce témoignage est insupportable et ils essayent de faire pression sur lui, de le décourager. Mais lui raisonne, il se fie à son intelligence, à ce que son expérience lui permet de déduire de la connaissance de Dieu, de ce qu'est Dieu, qui est Dieu, ce qu'il fait, sa pédagogie. C'est une invitation par Dieu lui-même à tous les fidèles, de devenir, en lisant l'Écriture, en la méditant, de devenir des théologiens à leur tour. C'est l'interprétation de l'Écriture, le drame de l'interprétation de l'Écriture qui était fermée, c'était tout l'Ancien Testament, et en tout cas les derniers siècles de cette histoire. Ainsi, c'était créé une caste d'interprète officiel de l'Écriture et les fidèles ne pouvaient pas en tout cas avoir droit d'interprétation et donc d'échange sur la parole de Dieu. Quelle chance est la nôtre aujourd'hui, car les prêtres, les diacres ne sont pas les propriétaires de cette interprétation. Il la propose, il rappelle aussi les grandes vérités de foi de l'Église, ça c'est... on ne peut pas les nier, là elles ne sont pas sujettes à discussion, mais elles doivent être approfondies, donc discutées aussi. Et on peut échanger les uns et les autres, et c'est ça le bonheur quand même, et la liberté. On peut scruter l'écriture librement et la communiquer. C'est quand même quelque chose de fabuleux, le pouvoir que Jésus nous a donné, un grand esprit de liberté. Cet esprit de liberté est incarné par ce miraculé. Il fait front parce que lui s'aperçoit, vous voyez, c'est quand même extraordinaire. Il était aveugle au sens spirituel, hein, j'insiste du terme, pas seulement matériel, pas seulement physique. Il ne voyait que les ténèbres, un monde ténébreux, un monde de péché où le mal dominait tout. Et ça lui paraissait être la loi du monde. Et il y a beaucoup de gens qui vivent dans ces ténèbres-là. Ils ont l'impression que le bien ne pourra jamais gagner dans tel que fonctionne le monde. Et puis ses yeux s'ouvrent, Dieu lui ouvre les yeux, et il se rend compte que la lumière est tellement plus puissante. Mais paradoxalement, alors que ses yeux s'ouvrent, ce n'est pas la lumière que Jésus lui donne à contempler directement, ça ce sera à la fin, quand Jésus reparaîtra, mais là il disparaît d'abord, et ses yeux s'ouvrent sur le mensonge, ses yeux s'ouvrent sur l'opposition à la lumière de la part des pharisiens. Et il comprend, lui, et il n'est pas impressionné par ce déploiement, formel, social, officiel, voilà, c'est plutôt ce terme-là, ce déploiement officiel de l'autorité sous la forme d'une enquête minutieuse et de personnes adaptées pour et nommées pour cette enquête. Et lui se rend compte que les apparences sont bien trompeuses et que tout ça, ça n'est qu'une structure de mensonge et que la recherche de la vérité ne les habite pas. Tandis que lui, il était dans une recherche de la vérité. Il n'arrivait pas à la trouver, donc il était aveugle. C'est la signification spirituelle de son aveuglement. Mais Jésus a vu sa bonne volonté, lui a tendu la main et lui a ouvert les yeux. Mais c'est à lui de faire le chemin. C'est à lui de se frayer un passage au milieu de ces ténèbres jusqu'à la lumière, jusqu'au Christ. Et c'est seulement lorsqu'il est chassé lui-même de la synagogue, comme Jésus, eh bien, que Jésus vient à sa rencontre. Ah, voilà tout un itinéraire. Ça pourrait être un itinéraire de carême. Passer toutes les ténèbres, dépasser à travers l'expérience du désert, quel carême, toutes ces ténèbres qui nous entourent, ça n'arrête pas, hein, au niveau social, au niveau politique, à tous les niveaux, peut-être même au niveau familial. Eh bien, dépassons toutes ces ténèbres. Demandons au Seigneur d'ouvrir nos yeux. Afin de quoi ? Pourquoi ? Pour en faire quoi ? Pour le voir. Et là, en le contemplant, nous obtiendrons tout ce que nous désirons.